Dignité élective, une émission de Francesca Isidori. Essayiste, romancière, psychanalyste et enseignante, elle conjugue tantôt dans des travaux théoriques savants qui lui ont valu une audience internationale et des prix prestigieux comme le prix Holberg en 2004 ou le prix Hannah Arendt en 2006, tantôt dans des romans palpitants aux allures de polar, les multiples champs de savoir, les espaces d'investigation qu'elle traverse en y laissant son empreinte, de la sémiotique à l'anthropologie, de la réflexion sur l'expérience poétique et littéraire à l'observation du fait religieux, de l'éthique à la linguistique, à la philosophie, à la psychanalyse. Déplacement, migration, entre les langues, les disciplines, les frontières extérieures et intérieures, pour sortir de soi, se voyager, comme aime à dire l'héroïne de son roman « Meurtre à Byzance », pour se tenir dans le questionnement et l'ouvert, pour changer la place des choses, ainsi que l'écrivait Roland Barthes dans un texte intitulé « L'étrangère » qu'il lui consacrait en 1970 au moment de la sortie de son livre « Sémiotiké ». Lui devant déjà beaucoup, disait-il, et dès le début, je viens d'éprouver une fois de plus, et cette fois-ci dans son ensemble, la force de ce travail. Force veut dire ici déplacement. Elle change la place des choses, elle détruit toujours le dernier préjugé, celui dont on croyait pouvoir se rassurer et s'enorgueillir. Ce qu'elle déplace, c'est le déjà dit, c'est-à-dire l'insistance du signifié, c'est-à-dire la bêtise. Ce qu'elle subvertit, c'est l'autorité, celle de la science monologique, de la filiation. Son travail est entièrement neuf, exact, non par puritanisme scientifique, mais parce qu'il prend toute la place du lieu qu'il occupe. Il l'emplit exactement, obligeant quiconque s'en exclut à se découvrir en position de résistance ou de censure, ce qu'on appelle, d'un air très choqué, le terrorisme. Cette même force de déplacement, au sens où l'entendait Roland Barthes en 70, a toujours été à l'œuvre dans ses écrits, jusqu'au tout dernier qui vient de paraître, cet incroyable besoin de croire, aux éditions Bayard, et aux éditions de l'Aube, Seule une femme, recueil de chroniques, d'entretiens, de textes, rares et inédits, de 1975 à aujourd'hui. Les affinités électives de Julia Kristeva. Bonsoir Julia Kristeva.
Bonsoir Francesca Isidori.
On commence cette émission avec ce chœur, ce chant orthodoxe, le titre Holy Lord. Le compositeur s'appelle Dobry Hristov, il est mort en 1941, et ici c'est le chœur orthodoxe de Sofia qui interprète cette pièce musicale. Alors vous avez souhaité commencer cette émission par une musique de la Bulgarie, une musique, un chant religieux et un chant qui vient de votre pays. Oui, parce que le titre de votre émission, c'est « Les affinités électives » et je pensais que je ne pouvais pas ne pas commencer par un clin d'œil vers mes origines et tout particulièrement vers mon père qui chantait dans les églises. Et j'ai beaucoup entendu ce chant qui est fait par un compositeur très connu en Bulgarie, qui est toujours chanté, je pense. Je n'y vais pas souvent, mais je le suppose. Et mon père était un grand fervent de cette liturgie.
Donc la musique a eu une place importante dans votre formation ?
Oui, mon père donc était un très très beau, fervent, fidèle, mais en même temps une voix extrêmement séduisante. Et puis ça s'est transmis plutôt à ma sœur, qui est une violoniste qui a fait ses études à Moscou, chez Oistrakh, et maintenant elle est professeure de musique. Moi, je suis restée une simple amateur, ou amatrice, comme vous voulez, mais ça joue une place évidemment très importante chez moi.
Oui. Et dans votre vie de tous les jours, la musique a cette place importante. Vous écoutez souvent
des... J'écoute souvent de la musique et mon fils a l'oreille absolue. J'avais prévu qu'on fasse passer un Mozart parce que nous avons un hymne secret entre nous qui est la symphonie numéro 40, mais on n'aura pas le temps.
Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Comment vous jouez de cet hymne ou de
Par
code
exemple,
musical
sur ces, comment on appelle ça, dans les téléphones,
il y a iPhone. Les appels,
voilà, sur les téléphones mobiles, on se les transmet, etc. Donc, c'est des petites choses comme ça. Et puis, Philippe Soler, c'est un grand amateur
mélomane.
De musique et mélomane et adepte du rythme mozartien. Donc, voilà, ça occupe une place très importante chez nous.
Julia Kristeva, je vous ai demandé de chercher, d'apporter une photo de vos 20 ans, plus ou moins 20 ans. Et voilà, alors on a sous les yeux plusieurs photos, mais c'est celle-ci que vous avez choisie. J'aimerais que vous décriviez cette photo et surtout que vous parliez de cette jeune femme extrêmement séduisante.
Vous me demandez quelque chose de très difficile là, parce que j'ai horreur de mes photos, je ne me reconnais pas dans l'image. Et j'ai fait ce livre dans lequel on trouve ces photos sous la pression de mon éditeur américain qui est Columbia University Press et qui a publié donc un recueil d'interviews à l'intérieur duquel le recueil se trouve un cahier de photos, Julia bébé, Julia écolière et Julia de 1966, je crois, c'est voilà, l'arrivée à Paris, l'étudiante à Paris. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut vont dire. Des amis qui voient cette photo trouvent que c'est une bombe. moi, j'ai l'impression que c'est une présence. En effet, c'est une fille qui n'est pas moche, en principe.
Mini-jupe, bottes,
voilà,
très années 60.
Longs, des cheveux des années 60. Mais ce qui me frappe surtout, c'est que elle regarde quelque part loin et sans vraiment regarder. C'est déjà une frontière. Il y a le corps qui est là, c'est une espèce de point d'exclamation. Et en même temps, les yeux sont ailleurs, comme si elle était sur une frontière. J'ai fait récemment l'introduction du catalogue de Louise Bourgeois pour la Tate moderne. Et je suis tombée sur une phrase de Louise Bourgeois qui décrit quelque chose qui était très spécifique au féminisme de l'époque. Elle dit « Les femmes doivent être arrogantes et audacieuses ». Et je trouve que cette fille-là, là, qu'on regarde, c'est pareil que c'est moi, elle n'est ni arrogante ni audacieuse, mais elle a quelque chose de décidé et d'absent. Et c'est peut-être une force aussi d'être là et pas là, dedans et dehors.
Alors, on reparlera de cette Julia Kristeva en 1966, à son arrivée à Paris. Mais d'abord, un pas en arrière, la Bulgarie, Sliven, où vous êtes née, Sofia, où vous avez grandi.
Oui, oui, mes parents sont arrivés très tôt à Sofia, donc j'ai grandi à Sofia. Oui.
Et puis l'apprentissage du français très tôt, chez les dominicaines d'abord, à l'école maternelle, et ensuite
à
l'Alliance française.
Oui, mes parents ont eu cette bonne idée de m'inscrire chez les dominicaines, et c'était un passage qui m'a beaucoup marquée, parce que ces femmes étaient à la fois très rigoureuses et très compréhensives. On
nous a appris de la littérature. Pour les enfants, c'était les fables de La Fontaine, faire la révérence à la française, la marseillaise. C'était pas du tout dogmatique, c'était pas à proprement parler une éducation religieuse, mais ça l'a été dans le sens d'une sorte de rigueur, comme ça, et de discipline et de respect. Et puis, elles ont été convaincues d'espionnage. On les a très vite chassées et j'ai continué à l'Alliance française qui a repris leur œuvre.
Alors, vous rêviez de vous consacrer à l'étude de la physique nucléaire, mais vous avez dû changer de vocation et vous êtes orienté vers des études de lettres. Mmh. La raison de ce changement de vocation était une raison politique, je crois.
Oui, parce que moi, j'étais assez forte en maths et ça vient plutôt de ma mère. Je parle souvent de mon père. J'ai pas toujours l'occasion de parler de maman. Vous m'en donnez une. Elle avait fait des études de biologie. Elle était darwinienne et tandis que papa essayait de nous bassiner avec ce que nous considérions, ma sœur et moi, comme des reliquats de dinosaures qui est toujours dans la foi, elle parlait de Darwin. Et donc, c'est sous son impulsion que j'ai gagné les Olympiades de maths et donc j'ai voulu faire de la physique nucléaire, c'était l'époque des Spoutnik, des premiers voyages dans l'espace et tout ça. Mais mon père, n'étant pas un membre du Parti communiste, ça n'a pas eu lieu. Et donc, je me suis inscrite en fac de lettres. Et avec le français que je maîtrisais déjà, c'était facile.
Dans votre livre « Étrangers à nous-mêmes », vous parlez du silence des polyglottes. Et vous avancez aussi l'idée de l'exil comme meurtre de la langue maternelle. Alors, le silence des polyglottes, est-ce que ça voudrait dire qu'on parle plusieurs langues pour mieux se taire ?
Il y a de cela. Je crois que dans cette expérience de plurilinguisme, il y a constamment une sorte de changement de personnalité. Je ne suis pas la même quand je parle le russe ou le français ou l'anglais ou le bulgare. Et il y a une sorte de bouquet d'identité qui peut être une esquive par rapport à une vérité profonde, comme ça peut être une tentative de s'y rapprocher, une traduction interminable de noyaux qui n'existe pas dans l'absolu, mais qui se recrée dans la pluralité, en quelque sorte. Et de ce point de vue, le polyglotte cache quelque chose, mais il sait qu'il le cache et il essaye de le traduire un jour ou l'autre. Et je crois que ça touche pas seulement les langues nationales qu'on parle, mais les différentes formes de discours. Par exemple, le discours de la photo, quand vous faites de la photo, ou de la danse, ou de la peinture. Ce sont des discours, ce sont des langages. Quand je fais de la psychanalyse, je ne suis pas la même quand j'écris un roman, ou quand je vous parle maintenant, ou quand je professe telle théorie linguistique, etc. Donc, toutes ces variantes de langage s'approchent d'une vérité qui reste toujours une sorte d'énigme. Énigme qui vous pousse à continuer.
Et vous en êtes où aujourd'hui de votre rapport avec la langue maternelle avec le...
Quand j'ai commencé à faire une analyse, je pensais que ça allait revenir parce que depuis donc l'âge de 4-5 ans, je parle français. Le bulgare est resté quand même très présent et je le retrouve dans mes intonations, quand je m'écoute, par exemple, si j'écoute cette émission, après coup, j'entends mon accent, mes intonations, etc. Donc il y a ce fond musical presque pré-linguistique qui est lié aux premières relations avec la mère. Donc ça perdure. Il y a quelque chose qui apparaît dans une syntaxe qui est beaucoup plus longue, mélodieuse, qui s'enchaîne, qui ne tranche pas à la cartésienne, à la Descartes, qui est plus proustienne en quelque sorte, enfin, toute proportion gardée évidemment. Mais le bulgare, je l'ai perdu aussi. Quand j'étais élue docteur honoris causa de l'Université de Sofia, j'ai dû faire un discours de réception et je l'ai fait en français, je l'ai fait traduire par une amie. Et donc j'ai lu la moitié en français, la moitié en bulgare. Donc la seule langue que j'utilise vraiment et dans laquelle j'écris, que ce soit de l'essai ou du roman, c'est le français. Et je ne rêve pas en bulgare. Même pendant l'analyse, je commençais par cela, il m'est arrivé d'avoir quelques rêves avec des mots bulgares, mais mon analyste, qui n'était pas française d'origine, qui n'est toujours pas d'ailleurs, parce que c'est une femme en pleine activité, comprenait ça très bien et on faisait des traductions, des passages d'une langue à l'autre pour vraiment chercher cette énigme et pour que le silence du polyglotte ne soit pas un silence vain.
Julia Kristeva, cette étudiante, jeune étudiante que vous étiez à Sofia avant votre départ à Paris, quelles étaient ses lectures, quelle était sa formation quand on avait 20 ans et qu'on faisait des études de lettres à Sofia au milieu des années 60?
C'était une période qui était très ouverte parce que c'est ce qu'on appelle ou appelait à l'époque, maintenant cette mémoire se perd, le dégel. Khrushchev était passé par là, donc le stalinisme commençait à s'effriter. Et donc c'était assez ouvert, tout particulièrement au département de français. Donc il n'y avait pas que les auteurs communistes, ce qui devait être le cas. Ça allait très loin, bien sûr, du côté de la littérature du XVIIIe siècle, Rousseau, Voltaire, Diderot, mais aussi des auteurs 19e, 20e, comme Proust, que j'ai beaucoup lu et que j'ai redécouvert en France. Pas forcément les avant-gardes, mais par des amis qui étaient des correspondants des presses bulgares ou des journaux bulgares à l'étranger. J'avais lu Roland Barthes, Camus, Lautréamont, Mallarmé, enfin des auteurs modernes qui paraissait décadent et bourgeois. Et aussi, bien sûr, la littérature russe. Mon père était un grand lecteur de Dostoïevski et à table, avant de l'attaquer sur sa religion, nous étions en osmose plutôt et en convergence, en tout cas, sur Dostoïevski, que j'admirais déjà comme papa.
Paris, la veille de Noël 1965. Je vais lire le début de votre roman, votre premier roman, Les Samouraïs, sorti en 90, qui commence de cette façon-là. Elle déposa les deux valises de cuir râpées, feuilles mortes, sur le comptoir à bagages, effleura du bout des lèvres les joues humides de papa-maman, fit à Dan un clin d'œil qu'on trouva amoureux, escalada sans se retourner la passerelle du Tupolev, passa 3h30 dans l'avion sans songer à égrener les minutes, la tête vide, rien que la saveur du tanin, du thé dans la bouche, et atterrit dans un Paris gris, boueux. Les flocons ne cessaient de tomber et de fondre. La ville lumière n'existait pas. Les Français ne savaient pas déblayer la neige. La déception fut totale. Elle la sentait au sel dans sa gorge. Évidemment, Boris ne l'attendait pas à Orly. Elle n'avait que $5 en poche. Il n'y avait pas de quoi rire. C'était la catastrophe. Alors, malgré cette arrivée peu encourageante, la suite sera moins catastrophique, puisque d'emblée, vous êtes très jeune et vous retrouvez au cœur de la vie intellectuelle parisienne, autant dire française. C'est cette vie-là que vous décrivez d'ailleurs dans votre premier roman, dont je viens de lire le début, Les Samouraïs. Alors, Barthes, que vous aviez lu en Bulgarie, Lévi-Strauss, Solers, qui va devenir votre mari, le groupe de Tel Quel. Vous êtes enfin, au cœur du bouillonnement intellectuel, de cette effervescence extraordinaire des années 66, 67, 68, qui va arriver très bientôt. Et vous êtes toute jeune et vous sentiez comment, comme Alice au Pays des Merveilles, ou vous trouviez tout à fait normal de débarquer de Sofia et d'être d'emblée dans ce monde-là?
Écoutez, quand je vous entendais lire ces premiers mots de samouraï, ça me faisait rire, mais au moment du débarquement, je riais pas du tout parce que c'était vraiment une catastrophe. D'abord, il y avait de la neige, les Français ne savaient pas déblayer, c'est une ville boueuse et pas du tout la ville lumière que j'imaginais. Les gens n'étaient pas habillés comme dans Elle ou comme Vogue, le métro était plein de gens pauvres. Bon, c'était c'était pas très drôle du tout. Et puis j'avais les 5 $, le Boris n'étant pas là. Il y a toute une histoire assez compliquée. Je suis tombée sur un journaliste pour lequel j'avais écrit un article favorable. Il était justement révisionniste, comme on disait à l'époque, donc très contre le Parti communiste. Personne ne voulait faire cet article. Moi, jeune et naïve, je l'avais fait. J'étais descendue en flèche par le journal communiste qui me traitait d'espion du sionisme et du capitalisme international. Enfin, moi, donc c'était la galère. Et c'est ce monsieur qui passait par hasard à l'ambassade et qui... je me suis présentée à lui, il me dit, mais c'est vous, je croyais que c'était une dame beaucoup plus sérieuse qui avait fait cet article et qui m'a accueillie pour que je survive avec mes 5 $. Donc c'est une histoire un peu rocambolesque dont on trouvera les traces dans Les Samouraïs. Mais c'est vrai qu'à part cela, Paris à ce moment-là était représentée pour moi une France qui guérissait ses blessures de la guerre d'Algérie et qui, tout en étant crispée, tout en se défendant, avait des franges, parmi lesquelles les étudiants à Paris, le milieu intellectuel, extrêmement ouvert déjà vers l'étranger. Et ce n'était pas encore le flux migratoire dont on se protège actuellement, ni le plombier polonais, etc. On était très peu, Svetlana Todorov et moi-même, et pas tellement d'autres personnes des pays de l'Est. On nous a ouvert les portes de l'école des hautes études, on fréquentait les séminaires de Genette, de Barthes. Et par ces professeurs, j'ai connu le groupe tel quel, Philippe Solers, qui m'ont fait une place... pas du tout misogyne, ces messieurs, très ouverts.
Ni xénophobes.
Ni xénophobes, voilà, et très intéressés parce que je pouvais apporter, lié au formalisme russe, qui est, comme chacun sait, l'ancêtre du structuralisme. Et donc, de fil en aiguille, René Girard m'a proposé d'aller aux États-Unis. J'ai dit que pas du tout parce que c'est la guerre au Vietnam. Et je n'allais pas combattre le capitalisme comme ça. Donc, en étant dans l'université ou m'associer au capitalisme, quelle que soit la situation, je n'y allais pas. Et donc, ça a quelque chose de paradoxal, vu d'aujourd'hui, un peu comique. Mais c'était toute une aventure. Alors, est-ce que je me sentais comme une Alice au Pays des Merveilles ? Ça se faisait de manière tellement naturelle qu'après quelques mois de souffrance, de dépaysement et de solitude, j'ai acquis la conviction que... Si je dois continuer ce travail pour lequel je m'étais préparée, d'intellectuel, de réflexion à l'intersection entre la philosophie et la littérature, c'était la place ici, à Paris, et pas ailleurs, et même pas aux États-Unis. Et donc, à quelques conditions que ce soit, je devais rester.
Alors, le sujet de vos recherches, pour lesquelles vous aviez obtenu une bourse, devait être au départ le nouveau roman, mais finalement, votre travail va prendre une autre orientation. Et plutôt que de vous intéresser à la décomposition du roman, vous remontez vers la genèse, à la naissance, aux origines du roman français. Vous avez travaillé sur un texte en particulier d'Antoine de La Salle, qui est un auteur du XVe siècle, et ce texte s'intitule « Le petit Jean » de Saint-Tré, et là vous montrez, vous avancez l'idée que le roman est un genre dialogique, qu'il entre un dialogue, qu'il entame un dialogue avec les genres intérieurs, avec d'autres textes, et au cœur du structuralisme qui était en vogue ces années-là, vous avez travaillé l'analyse du texte littéraire en l'ouvrant à des notions nouvelles, en repérant des influences venues d'ailleurs, et vous mettez en évidence cette polyphonie du texte. Alors, je reviens un instant au roman Les Samouraïs, où on trouve un personnage qui s'appelle Bréal, mais qui emprunte ses traits à Roland Barthes. Alors, Bréal, alias Roland Barthes, dit à Olga, qui vous ressemble de très près, « Vous étiez passionnante, précise, bien entendu, c'est indispensable, mais avant tout puissante, je dis bien puissante, un vrai bulldozer. » Et Hervé, alias Philippe Solers, qui écoute cette discussion, ajoute un bulldozer sur les plates-bandes du structuralisme. Mmh. Alors, vous participez à ce moment-là à ce décloisonnement du structuralisme et à ce qu'on a appelé le post-structuralisme. Donc, non seulement vous êtes jeune, non seulement vous arrivez de l'étranger, mais en plus, vous mettez les pieds sur les plates-bandes du structuralisme et ça vous réussit puisque vous avez l'admiration de tous ces jeunes... Mmh. des jeunes intellectuels.
C'est vrai que j'avais cette formation qui m'a conduite à me sentir à l'aise dans le structuralisme parce qu'il a été précédé par les formalistes russes. Mais c'est vrai aussi qu'après les formalistes russes, il y a eu un mouvement très intéressant dont le représentant est Mikhaïl Bakhtine, que j'ai fait traduire en français par une amie russe. Et j'ai fait la préface, donc j'ai introduit ce personnage dans la culture occidentale et maintenant très connu dans toutes les études littéraires, qui, en travaillant sur Rabelais et Dostoïevski, a montré les limites du structuralisme. Je ne vais pas m'étendre très longuement là-dessus, mais les idées du roman comme à l'intersection des genres, les chroniques savantes et le carnaval, par exemple, comme un dialogue entre les genres, ce sont des idées qui viennent de lui. Donc je les ai reprises, je les ai développées et je les ai illustrées à partir d'un texte qui est avant Rabelais, qui est Le Petit Jean de Saint-Tropez, d'Antoine de La Salle, où le roman n'est pas encore à son apogée, la pâte est en train de prendre, mais on voit très bien quelles sont les chroniques savantes, qu'est-ce que c'est que le théâtre, le personnage qui vient de la littérature courtoise et qui devient sorte de bohème et tout ça. C'est le moment où l'alchimie du roman est en train de se constituer. Et deux éléments devaient être introduits à partir de là dans le structuralisme, la subjectivité. Donc, qui parle, quels sont les personnages, quels sont leurs drames psychiques et l'histoire. L'histoire de la littérature, l'histoire des sciences, l'histoire religieuse, chose dont le structuralisme ne s'occupait pas. Donc je suis un peu la grand-mère du post-structuralisme. Alors Roland, que vous évoquez, Roland Barthes, c'était un personnage extrêmement... vous voyez, je considère ce passé comme une pièce de théâtre. Déjà, je parle de Bakhtine et de Barthes comme de personnages. Mais ils sont des personnages d'une histoire aussi. Il avait la particularité de lire ses étudiants, ce qui est assez rare. Les professeurs se lisent eux-mêmes et quand ils ne se découvrent pas chez leurs étudiants, ils ne découvrent pas l'étudiant non plus. Alors que lui, il n'était pas du tout comme ça. Il essayait de découvrir l'étudiant comme quelqu'un de singulier, de nouveau, et pas comme une répétition de ce que lui, le professeur, disait. Et donc, cette générosité a fait qu'il m'a fait beaucoup de crédit en me laissant parler à son séminaire et en faisant ce bel article sur l'étrangère et en trouvant aussi, et là, ça m'étonne quand même, cette force en moi, que peut-être, puisqu'elle a senti, ça doit être vrai quelque part, mais moi, je ne me sentais pas du tout comme ça.
Alors, j'imagine que le transport, au sens de l'élan, de la passion qui guide votre réflexion est resté le même, mais peut-être que le véhicule a changé, peut-être que vous êtes moins bulldozer.
Jusqu'à présent, j'ai dit ce que dans le bulldozer a de positif, le compliment de force, mais il y a un côté brutal aussi, ça détruit, c'est pas très élégant. Il y avait peut-être ça dans l'esprit de Roland qui était un sacré ironiste. Alors, est-ce que ça a continué? Ça me faisait penser à ce que le président Chirac m'a dit dernièrement dans le cadre de cette campagne sur les personnes handicapées, et il disait que j'étais un cheval de course. Moi, je préfère ça, c'est un peu plus animé.
Alors, Julia Kristeva, il y aura le voyage en Chine en 1974. Vous aviez entrepris une licence de chinois. Il y avait l'attrait pour le maoïsme et la désillusion au contact de la réalité chinoise. Et votre livre, Des Chinoises, ce sera le récit de cette désillusion. Et est-ce que c'est à partir de ce moment-là que vous vous êtes détaché de toute politique, ou en tout cas d'une certaine manière de faire, de penser la politique, le politique? Est-ce qu'il fallait trouver des nouveaux champs d'investissement du politique? Et lesquels?
C'était, disons que pour moi, et je vous remercie de me donner l'occasion de dire cela, parce que l'engouement pour le maoïsme était très différent pour chacun de nous, et le mien ne correspond pas du tout à ce que beaucoup de critiques ciblent aujourd'hui. L'engouement pour la Chine était pour moi déjà une manière de me détacher de l'idéologie, parce que ce qui m'intéressait, c'était quelle est la culture chinoise qui permet peut-être une modification du dogmatisme marxo-lénino-stalinien.
Que vous connaissiez bien, par
expérience. Que je connaissais bien. Et donc, l'espoir était que, sur la base d'une culture nationale différente, cette superstructure idéologique pouvait changer. Et donc, j'ai fait une licence de chinois et je suis arrivée en Chine en baragouinant un peu en chinois. Et vu mon visage, paraît-il, assez asiatique, les gens me prenaient pour une chinoise. Au bout de 3 phrases, j'étais démasquée. Mais donc, c'est cet intérêt pour la culture chinoise qui m'a menée en Chine. Et là, je me suis rendue très vite compte que le marxisme était un effet superficiel, qu'il y avait cette culture fondamentale qui touchait notamment le rôle des femmes, la sexualité, la calligraphie, énormément de composantes qui font partie du taoïsme, mais aussi d'un confucianisme à visage humain et assez modéré, parce qu'il y a des confucianismes beaucoup plus virulents et dogmatiques. Tout ça était là. Néanmoins, ça n'influait pas sur le communisme chinois. C'était comme deux mondes, comme une espèce de schizophrénie permanente. Et dans la mesure où nous n'avons pas pu visiter les camps de concentration, on ne disait rien sur ce qui se passait vraiment au niveau des persécutions. En rentrant, j'ai complètement décroché de la vie politique, une certaine déception qui ne m'a pas éloignée de la gauche, mais qui m'a toujours remise dans une position de questionnement. Est-ce qu'une nouvelle gauche est possible et sous quelle forme une social-démocratie est possible en France? Ça reste une question, on le sait, encore d'actualité et peut-être sans réponse dans l'immédiat. Et donc, ce qui a pris la place de cet intérêt culturel, j'aurais pu continuer pour faire sinologie. Je trouvais que c'était immense et ça me conduisait davantage de nouveau dans des livres. J'ai voulu m'attacher à quelque chose de plus physique, plus concret, plus immédiat. Et là, se sont ouverts 2 chemins, la psychanalyse, donc la vie intime, et la maternité, ce qui va ensemble peut-être.
Claudio Monteverdi, chant guerrier et amoureux, gira il nemico, tutti, tutti, tutti a cavallo.
Oui, moi j'aime beaucoup ce refrain parce qu'on revient au cheval de course. Ma vie est un peu intense, comme ça certains diraient agitée. Moi je ne le sens pas du tout comme ça, mais en tout cas rythmée et faite de voyages, notamment d'université à l'autre, aux États-Unis où je vais très souvent. Et puis même entre le divan, mes écritures, l'université, le conseil économique et social, etc., etc. Donc, j'aime bien ce rythme.
Julia Kristeva, vous avez donné un jour cette définition de vous-même qui demande quelques explications en monstre de carrefour.
Oui, mais le carrefour, on vient déjà de les tracer un peu entre la Bulgarie, la France, les États-Unis. Moi, je dis souvent que je suis une Française d'origine bulgare, de citoyenneté européenne et d'adoption américaine. Ça dessine les carrefours. Puis il y a aussi les différents champs, ce qu'on appelle l'interdisciplinarité, la littérature, la psychanalyse, la linguistique, le roman, etc. Et il y a un côté monstrueux dans tout ça, parce que je suis évidemment quelqu'un d'extrêmement, je pense, attentif, ou du moins j'essaye, envers les autres, mais la monstruosité apparaît je crois, dans une grande exigence par rapport aux autres et aussi cette avidité de vitalité.
L'exigence qui peut apparaître comme une dureté ?
J'essaye à ce qu'elle n'apparaisse pas, mais je sais que j'épuise mes collaboratrices et collaborateurs.
Je me voyage, dit l'héroïne de Meurtre à Byzance, votre roman sorti en 2004 chez Fayard. Donc il y a encore une fois cette idée du déplacement, on disait, entre les langues, entre les pays, entre les différentes frontières, aussi bien extérieures que
tout
intérieures.
Tout à fait. Et c'est un néologisme, évidemment, il s'exprime en néologisme comme Julia Kristeva à ses débuts. Maintenant, je pense que je suis beaucoup moins technique et dans un langage plus accessible. Elle veut dire que pour voyager entre les frontières, il faut traverser ses propres frontières. Je me voyage, il y a une espèce de traversée de ses propres limites. Et ça, c'est peut-être le plus difficile, parce que je connais beaucoup d'étrangers qui déplacent leurs drames et leurs baluchons dans un pays nouveau et n'arrêtent pas d'être nostalgiques par rapport à leurs origines et de faire de la guerre à ceux qui ont d'autres origines. Donc, ce n'est pas vraiment un voyage pour moi.
Et vous dites aussi « étrangez-vous à vous-même ».
Voilà, mais ça va dans ce sens. Je pense que nous sommes dans une civilisation européenne qui, évidemment, est très plurielle. Mais il me semble que s'il y a une définition à donner de la culture européenne, c'est que nous avons inventé la quête identitaire. Et en même temps, nous avons fait apparaître combien c'est futile et combien c'est dépassable. Alors que dans d'autres pays, dans d'autres contrées, les gens croient leur identité et combattent l'identité des autres. L'Europe est peut-être le seul lieu au monde où une paix, peut-être pas la paix universelle de Kant, mais une paix quand même est en train d'exister. Les gens se combattent sur les terrains de foot ou de rugby, mais il n'y a pas vraiment de guerre ou de moins en moins. Et en même temps, nous avons cette notion de la liberté individuelle comme dépassement de soi, comme voyage permanent, qu'on peut retrouver déjà chez le dieu juif. Hier, je suis celui qui est. C'est donc pas une définition, mais une invitation à recommencer le questionnement de qu'est-ce que c'est que être. Ça passe par le dialogue de Platon. Il n'y a jamais une idée fixe. Il y a des idées qui se combattent dans les dialogues de Platon. Ça passe par saint Augustin. Je cite souvent ça aussi. In via, in patria. Il y a une seule patrie, c'est le voyage. Ça va à travers le personnage des Essais de Montaigne qui est fait de plusieurs lopins, un tissu polyphonique ou multicolore. Ça passe par Goethe, je suis l'esprit qui nie, enfin, c'est cette espèce de doute et de négation permanente. Et ça aboutit à Freud, pour ce qui me concerne. Là où c'était, je dois advenir. Mais il n'y a pas d'identité fixe, c'est toujours une identité en mouvement.
Et dans la quête d'identité, ce qui vaut la peine d'être véritablement exploré et vécu, c'est le voyage, et pas tellement arriver à justement cette identité fixe qui est en l'heure.
Tout à fait. Cette identité fixe, c'est une frontière qui nous rattrape. Parfois, je dis que nous avons des identités. Il ne faut pas les dénier. Ça, c'est une autre erreur. Et l'identité est même non seulement constitutive de notre complexité psychique, mais c'est un antidépresseur. Par moments, c'est très difficile de se voyager, d'être dans ce dépassement continu. On a besoin de s'accrocher à quelque chose, à quelqu'un ou à une identité qui passe par quelques valeurs. Mais si on reste là, on stagne et on se dogmatise et on combat les identités de l'autre. Donc, antidépresseur, oui, mais ne transformons pas la dépression en manie.
Julia Kristeva, vous êtes essayiste, théoricienne et en même temps vous avez tenu des chroniques dans des magazines. On en parlera tout à l'heure à propos de Seule une femme, où il y a un certain nombre de ces chroniques parues dans le magazine Femme. Vous avez écrit des romans. Est-ce que cette polygraphie est aussi une manière de vous étranger à vous-même, de passer des frontières, d'explorer des expériences d'écriture différentes, de changer au fond d'identité aussi?
Je suis très attentive et peut-être ça nous ramène au début de cette émission où nous avons entendu des chants orthodoxes, et puis je vous parlais aussi de ma mère qui était du côté de la raison mais qui était aussi une très grande dessinatrice. Et donc c'est une époque où ce qui m'est apparu très clairement, c'est que il y a une seule résistance à l'oppression d'où qu'elle vienne, c'est l'approfondissement de la vie intime. Certains le font par leur religion, d'autres par la science, qui est aussi une expérience, et souvent accompagnée par l'art, c'était le cas de ma mère. Et la question, sans que je me la formule comme ça, s'est posée à moi, implicitement et inconsciemment, comment féconder en quelque sorte les concepts, un savoir abstrait qui a l'avantage de la clarté et qui, surtout quand on l'a développé avec la sémiologie dans les années 60, était une manière de combattre les idéologies et leur emprise illusoire et mortifère. Mais comment on peut dépasser cette abstraction, cette sécheresse en faisant entendre l'expérience intime? Et pour moi, ça passe par cette expérience du langage qu'est la littérature. Évidemment, dans la mesure où le français est toujours une langue seconde pour moi, je sais bien que je ne ferai pas du Colette avec ses adjectifs mirobolants et précis, extrêmement à la fois populaires et aigus, ni Proust avec cette musicalité insensée qui prend des pages et des pages en dilatant la syntaxe. Mais ça m'intéresse d'essayer de capter la sensation dans des mots et dans des narrations, c'est-à-dire des récits qui sont l'imaginaire. L'imaginaire comme interface entre le senti et la pensée. Et c'est une forme de pensée, et personne d'autre que Proust ne l'a dit. Et il dit quelque part que l'imagination est son seul organe pour jouir de la beauté. Je pense que les mystiques ont ça, développer de l'imagination en plein dans un cadre religieux très strict, et à travers cette imagination, faire entendre le corps. Et se mettre à l'encontre parfois des canons et des dogmes religieux d'une époque. Parfois ils sont brûlés, parfois on les accepte, mais c'est une espèce d'intrusion dans la bien-pensance. Et ça passe beaucoup par ce que nous appelons, nous les laïcs, l'imagination. Et je pense qu'aujourd'hui encore, c'est une forme de pensée, je l'appelle parfois L'apostrophe à pensée, pour la distinguer de la pensée rigide, de la cognition, de la connaissance au sens strict du terme, qui est une forme à la fois de se connaître, de connaître l'autre, et de connaître cette interface qui est entre moi et le monde, qui est la sensation, et entre moi et l'autre, qui est le désir.
Julia Kristeva, la question de la religion occupe une place croissante depuis un certain nombre d'années dans votre réflexion. Votre dernier livre s'intitule « Cet incroyable besoin de croire ». Il est publié chez Bayard, aux éditions Bayard. Et alors, que faire précisément de cet incroyable, ce paradoxal besoin de croire, besoin dont vous dites qu'il est pré-politique, pré-religieux? Quand on a une psychanalyste, on sait que pour Freud, le religieux, la religion était une régression archaïque, c'était une illusion, c'était une source de névrose. Et vous dites, l'être parlant est un être croyant.
Oui, mais je crois que c'est ce qu'on découvre dans sa vie personnelle, mais aussi à l'écoute de l'infantile chez le patient. Et chez Freud, c'est vrai ce que vous dites, l'avenir d'une illusion et d'autres textes laissent entendre que pour Freud, qui est un homme des Lumières et un juif athée, la religion est une source de névrose et une régression narcissique qui se couvre de rituels obsessionnels. Il y a ça, et en même temps, il y a une très grande attention portée aux besoins religieux, parce qu'il se pose la question de savoir d'où ça vient. Et c'est quelque chose qu'on ne souligne pas assez aujourd'hui, parce que je pense qu'on a oublié que Freud apporte un complément aux Lumières dont il est issu. Les Lumières sont un moment extrêmement important. On ne peut pas consacrer les quelques minutes qui nous restent là-dessus. Moi, je me considère comme un enfant des Lumières. Mais les Lumières ont concentré leur effort sur le besoin de savoir. Vous pouvez savoir, disent les Lumières en général, et vous pouvez savoir comment vous libérer des miasmes de l'obscurantisme, de la vie claustrale, de tous ces dogmes qui vous assomment en vous promettant la vie éternelle, l'Immaculée Conception, la naissance miraculeuse du Christ, etc., et qui ne tiennent pas devant la vérité scientifique. Et donc, libérez-vous de tout ça, sachez y aller de l'avant, etc. Et qui, parmi les personnes modernes, ne saluerait cette percée des Lumières. Et pourtant, Freud dit, d'accord, bon, mais il y a quelque chose qui est le besoin amoureux, sur lequel est bâtie la foi. Credo, c'est moi qui l'ajoute, mais c'est implicite chez Freud, veut dire dans le panthéon indo-européen, et la racine sanscrite le montre, je donne ma force vitale à quelqu'un en attendant une récompense. C'est ce qui se passe dans l'acte amoureux.
C'est croyance et
la créance et la croyance. Partout, je crois et Dieu va me sauver, et j'investis dans une banque, mais je vais avoir des dividendes. Etc. Donc tout ça, Freud dit, mais cette dimension de l'être humain qui n'est pas le savoir, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour, c'est le besoin de croire à quelqu'un qui m'aime et que j'aime, qui va me décevoir, mais je vais recommencer pour retrouver cela, qui va être pas seulement une personne, mais des valeurs, et ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait de ce besoin de croire et ou d'aimer? Il a mis sur le divan. Donc, il n'a pas considéré simplement comme une source de névrose. Peut-être ça va vers la névrose. Sans doute, nous sommes des névrosés. Cette pathologie est inhérente à l'être humain. Mais essayons aussi de l'éclairer. Il a fait donc de la croyance et de l'amour un objet de connaissance, ce qui est loin d'être simplement une évacuation ou une stigmatisation. Et je crois que l'évolution de l'humanité, et surtout les crises religieuses aujourd'hui, nous montre que nous ne pouvons pas nous limiter simplement au savoir. Pourquoi ? Parce que pour savoir, il faut que je croie. Je sais que 2 et 2 font 4, et c'est démontré, mais si je sais certaines choses, c'est que j'adhère aussi, et je les propage, et je déploie mes énergies pour les faire connaître. Donc cette dimension du croire à ce que je sais est indispensable. On nous dit souvent, les élèves dans les banlieues, on ne peut pas les arrêter à l'école, les fixer, parce qu'ils ne peuvent pas fixer leur attention. Mais ce manque d'attention tient au fait que l'appareil psychique est déstructuré dans la mesure où le besoin de croire pré-politique et pré-religieux n'a pas été fondée dans le triangle familial parce que le rôle maternel, le rôle paternel n'ont pas été suffisamment étayants et porteurs. Et nous avons maintenant en analyse la possibilité de voir sur quoi se fonde ce besoin de croire chez le petit enfant qui lui permet de fixer son attention, d'apprendre des choses et après de les savoir, de poser des questions, de les déconstruire, d'aller plus loin. Mais ça se fonde au moins sur 2 éléments, mais il y en a d'autres, je donne simplement des exemple, c'est ce que Freud appelle le besoin océanique de soutien maternel, dans lequel je suis perdue, avec maman je perds mes limites, mais en même temps elle est là, cet océan me porte, et c'est parfois des vagues terribles, nous savons combien la relation mère-enfant est dramatique, mais c'est quand même quelque chose
une
de très jouissif et protecteur. Oui. Et puis, une figure paternelle que la religion exploite, diront certains, optimalise, diront les autres, mais en tout cas en tiennent compte, c'est ce que Freud appelle le père de la préhistoire individuelle, qui est un père aimant et qui sert en quelque sorte d'interface entre la mère et l'enfant pour que cette dyade ne soit pas étouffante, mais qu'elle ouvre vers la possibilité de représenter les sensations et les émotions et de les communiquer à un tiers. C'est le degré zéro de la tiercité, en fait. Bon, toutes ces choses-là, l'analyse est capable maintenant, en s'intéressant aux étapes très archaïques de la vie psychique, de les mettre en évidence et de faire apparaître combien le besoin de croire est constitutif de notre appareil psychique. Et après, éventuellement, si on se place à un niveau non pas infantile et de la vie psychique, mais au niveau de la vie sociale, de tenir compte de l'importance des religions. Elles prennent place aujourd'hui, pas seulement parce que le Hezbollah paye plus que l'Union européenne, ça joue peut-être, mais aussi parce qu'en donnant des ouvertures, fussent-elles illusoires, on flatte ce besoin de croire. Qu'est-ce que nous, humanistes, nous faisons à la place? Je pense que l'humanisme devrait se pencher sur non seulement le besoin de savoir, que nous accompagnons très bien, mais aussi sur le besoin de croire et donner d'autres valeurs à croire qui ne seraient pas illusoires.
Pergolese Stabat Mater, interprété ici par Margaret Marshall et Lucia Valentini Terrani avec le London Symphony Orchestra dirigé par Claudio Abbado. Eia Mater, Fons Amoris, salut mère, source d'amour. Stabat Mater, c'est aussi le titre d'un chapitre le plus beau de votre livre Histoire d'amour, où deux textes se répondent en écho sur la même page avec deux typographies différentes, un texte savant, théorique, et un texte poétique où la sensation, justement, et la réflexion ne font qu'un. Un texte merveilleux que j'aurais aimé lire, au moins un tout très court extrait, mais nous n'avons pas le temps. Et j'aimerais que, pour les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais que vous nous parliez de cette question de la maternité qui revient aussi bien dans cet incroyable besoin de croire que dans Seule une femme, On dit souvent, écrivez-vous, que les mères donnent la vie, mais on oublie qu'elles la donnent constamment par cette tâche immense, la transmission d'une tendresse et d'une culture, ce qu'on appelle banalement l'éducation. J'ai eu brusquement le sentiment qu'en dehors de la figure admirable et désuète de la Vierge Marie et du divan, cette expérience-là de la maternité était particulièrement solitaire et sans écoute.
Oui, c'est un long chapitre que vous ouvrez là. C'est vrai que pour ne parler que de la psychanalyse, on a beaucoup mis l'accent sur les carences de la fonction paternelle qui sont à l'origine de beaucoup de malaise et de mal-être, y compris de la petite enfance. Et ce qui caractérise la psychanalyse moderne, on va dire post-freudienne et post-lacanienne, c'est l'intérêt porté à l'enfance précoce, les relations précoces mère-enfant. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel, c'est un renouveau de l'écoute analytique extrêmement important. Mais malheureusement, je pense que le grand public n'est pas très informé par rapport à cela. On connaît le nom de Winnicott, par exemple, ou avant lui, Melanie Klein. Mais cette percée de la psychanalyse n'a pas informé, si j'ose dire, les médias, où la fonction maternelle revient dans le post-féminisme. Souvent, les féministes, à la suite de Simone de Beauvoir, ont un peu diabolisé la maternité comme une sorte de nouvel esclavage, soumission, macho, etc. Ce n'est plus cela. Il y a une valorisation parfois de la maternité, mais de manière, je dirais, quasiment consommatrice et mercantile. On va donner des conseils pour les couches culottes, les petits pots, etc. Mais le travail psychique de la mère, ce que vous avez lu tout à l'heure, la transmission de la langue, de la capacité d'aimer, de la capacité de croire, de la capacité de penser. Ce sont des choses, bien sûr, qui ont des bases génétiques et prénatales, mais les mères, les modèles, et parce qu'ils sont de plus en plus seuls, malheureusement, comme le dit le titre de mon autre livre, Seule une femme. Elles sont souvent seules à essayer de trouver les moyens de cette transmission de la culture, pour dire rapidement, du besoin de croire, du besoin d'interroger, c'est-à-dire la capacité de transformer le désir qui lie deux êtres humains en sublimation. En langue, en musique, en tendresse et en connaissance. Mélanie Klein dit quelque chose qui me tient très à cœur, c'est que la base de la connaissance, c'est le désir de savoir ce qui se passe à l'intérieur de la mère. Et je vais très vite, c'est lié au complexe de castration, mais c'est un autre éclairage. Et ce besoin de savoir ce qu'il y a au fond de la mère me conduit à savoir ce qu'il y a au fond de moi. Et sans ce besoin de savoir ce qu'il y a au fond de moi et de l'autre, la pensée reste superficielle, elle est un calcul. C'est cette idée de la profondeur de la pensée qui est liée au désir de savoir, la capacité de savoir ce qu'il y a au fond de maman. Mais combien de mères se laissent pénétrer, si j'ose dire, ainsi. La mère se défend, la mère est seule, la mère est déprimée, elle ne réussit pas tout à travers son enfant, elle ne sait pas où aller, il n'y a pas de discours qui accompagne cette expérience psychique de la mère. Et on le voit maintenant avec les dépressions des mères, mais aussi la criminalité qu'on nous signale à travers les embryons congelés, tout ce que vous connaissez, qui, est-ce qu'elle est nouvelle? C'est pas sûr, ça a peut-être toujours existé. Est-ce qu'elle s'est aggravée compte tenu du fait qu'on demande aux femmes d'être des super-women et en même temps des mères perfectionnistes, etc. Peut-être, mais cet accompagnement des mères aujourd'hui, nous n'avons pas de discours laïque pour le faire. Et c'est pourquoi j'ai une certaine tendresse vis-à-vis de cette figure mythique pour moi de la Vierge Marie, mais je dis qu'on n'a pas trouvé mieux. Il ne s'agit pas de donner une nouvelle idole pour cela, de déterrer Athéna ou les cariatides, mais il faudrait que ce que les analystes sont en train d'élaborer puisse devenir, de la part des analystes, mais aussi de la part des médias, un discours plus communicatif et donc une culture, et non pas seulement un savoir ésotérique.
Merci Julia Kristeva, merci d'avoir été avec nous ce soir.
Merci à vous.
Je rappelle les titres de vos derniers livres, Cet incroyable besoin de croire aux éditions Bayard et Seule une femme aux éditions de l'Aube, des chroniques parues à la fin des années 80 dans le magazine Femmes, où vous revendiquez entre autres le droit à la tristesse et à la solitude, des portraits de femmes du siècle des Lumières, des femmes d'esprit et de chair, des entretiens, des textes théoriques de 1975 à aujourd'hui, et peut-être le lien entre tous ces écrits de nature si différente, un apprentissage de la liberté.